Propos sur le bonheur par Alain. Suite.
Lue par Christiane Johanne pour audiocité.net.
Article 65. Épictète. Supprime l'opinion fausse, tu supprimes le mal. Ainsi parle Épictète. Le conseil est bon pour celui qui attendait le ruban rouge et qui s'empêche de dormir en pensant qu'il ne l'a point. C'est donner trop de puissance à un bout de ruban. Celui qui le penserait comme il est, un peu de soie, un peu de garance, n'en serait pas troublé. Épictète abonde en exemples rudes. Cet ami bienfaisant nous prend à l'épaule. « Te voilà triste, dit-il, parce que tu n'as pas pu occuper au cirque cette place désirée, et que tu crois qui t'est due. Viens donc, le cirque est vide maintenant. Viens toucher cette pierre merveilleuse, tu pourras même t'y asseoir. » Le remède est le même contre toutes les peurs et contre tous les sentiments tyranniques. Il faut aller droit à la chose et voir ce que c'est. Le même Épictète dit au passager, « Tu as peur de cette tempête comme si tu devais avaler toute cette grande mer. Mais mon cher, il ne faut que deux pintes d'eau pour te noyer. » Il est sûr que ce formidable mouvement des vagues représente très mal le danger réel. On dit et on pense, mer furieuse, voix de l'abîme, vagues courroucées, menaces, assauts, cela n'est point vrai. Ce sont des balancements selon la pesanteur, la marée et le vent. Nul mauvais destin. Ce n'est pas tout ce bruit ni tout ce mouvement qui te tuera. Nulle fatalité. On peut se sauver d'un naufrage. On peut se noyer dans une eau tranquille. Le problème véritable est celui-ci. Auras-tu la tête hors de l'eau ? J'ai entendu conter que de bons marins, quand ils approchaient de quelque rocher maudit, se couchaient dans la barque en se couvrant les yeux. Ainsi des paroles entendues autrefois les tuaient. Leur corps, rejeté sur la même plage, témoignait pour l'opinion fausse. Celui qui saurait penser simplement à des rochers, à des courants, à des remous, et en somme à des forces liées entre elles et entièrement explicables, se délivrerait de toute la terreur et peut-être de tout le mal. Tant que l'on manœuvre, on ne voit qu'un certain danger à la fois. Le duelliste habile n'a point peur, parce qu'il voit clairement ce qu'il fait et ce que fait l'autre. Mais s'il se livre au destin, le regard noir qui le guette le perce avant l'épée, et cette peur est pire que le mal. Un homme qui a un caillou dans les reins et qui se livre au chirurgien imagine un ventre ouvert et des flots de sang. Mais le chirurgien, non. Le chirurgien sait qu'il ne va pas trancher une seule cellule, qu'il va seulement écarter les cellules de cette colonie de cellules, s'y faire un passage, laisser couler peut-être un peu de ce liquide dans lequel elle baigne, moins sans doute que n'en coûterait une coupure à la main mal pensée. Il sait quels sont les vrais ennemis de ces cellules et contre lesquels elles forment ce tissu serré qui résiste au fer. Il sait que cet ennemi, le microbe, est dans la place, par ce caillou qui ferme la route aux excrétions naturelles. Il sait que son bistouri apporte la vie, non la mort. Il sait que les ennemis écartés, tout cela va revivre aussitôt, comme on voit qu'une coupure nette et propre se guérit presque aussi vite qu'elle est faite. Si le patient se forme de ces idées-là, s'il supprime l'opinion fausse, il n'est pas pour cela guéri de la pierre, il est du moins guéri de la peur. 10 décembre 1910. Article 66. Stoïcisme. On a peut-être mal pris les fameux stoïciens comme s'ils nous apprenaient seulement à résister aux tyrans et à braver les supplices. Pour moi, j'aperçois plus d'un usage de leur sagesse virile, simplement contre la pluie et l'orage. Leur réflexion consistait, comme on sait, dans un mouvement pour se séparer du sentiment pénible et le considérer comme un objet en lui disant « Tu es des choses, tu n'es pas de moi ». Au contraire, ceux qui n'ont point du tout l'art de vivre en roi sur un escabeau laissent entrer l'orage au-dedans d'eux-mêmes, disant volontiers « Je sens l'orage de loin, je suis impatient et accablé à la fois. Tonne donc, ciel !» C'est proprement vivre en animal, avec la pensée en trop. Car selon l'apparence, l'animal est modifié tout entier par l'orage qui vient, de même que la plante se courbe au grand soleil et se redresse à l'ombre. Mais l'animal n'en sait pas grand-chose, de même que dans le demi-sommeil, nous ne savons pas si nous sommes gais ou tristes. Cet état de torpeur est bon aussi pour l'homme, et toujours reposant, même dans les plus grandes peines, à condition que le malheureux se relâche tout à fait. Je l'entends à la lettre. Il faut que tous les membres soient bien appuyés et tous les muscles détendus. Il y a un art de les tasser en repos, qui est une espèce de massage par l'intérieur et qui est l'opposé de la crispation, cause de colère, d'insomnie, d'anxiété. À ceux qui ne peuvent s'endormir, je dis volontiers, faites chaque revêt. Maintenant, si l'on ne peut descendre à cet état animal, qui est le vrai de la vertu épicurienne, alors il faut s'éveiller fortement et bondir en quelque sorte jusqu'à la vertu stoïcienne. Car elles sont bonnes, l'une et l'autre, et c'est l'entre-deux qui ne vaut rien. Si l'on ne peut se plonger dans l'état orageux ou pluvieux, il faut alors le repousser, s'en séparer, dire « c'est pluie et orage, ce n'est pas moi ». Plus difficile, assurément, quand il s'agit d'un reproche injuste, ou d'une déception, ou d'une jalousie. Ces mauvaises bêtes se collent sur vous, mais il faut pourtant s'aviser de dire enfin « ce n'est pas miracle si après cette déception je suis triste ». C'est naturel comme la pluie et le vent. Ce conseil irrite les passionnés. Ils s'obligent, ils se lient eux-mêmes, ils embrassent leur peine. Je les compare à l'enfant qui crie comme un âne, et s'irrite tellement de se voir aussi bête qu'il crie encore plus fort. Il pourrait se délivrer lui-même en disant « Eh bien quoi, ce n'est qu'un enfant qui crie !» Mais il ne sait pas vivre encore, et du reste l'art de vivre est trop peu connu. Mais je tiens qu'un des secrets du bonheur, c'est d'être indifférent à sa propre humeur. Ainsi méprisée, l'humeur retombe dans la vie animale, comme un chien rentre dans sa niche. Et voilà, selon mon opinion, un des plus importants chapitres de la morale réelle. Se séparer de ses fautes, de ses regrets, de toutes les misères de réflexion. Dire « cette colère passera quand elle voudra ». Semblable à l'enfant que l'on n'entend point crier, elle passera tout de suite. George Sand, qui avait de la tête, a bien représenté cette âme royale dans Consuelo, œuvre forte, trop peu lue. 31 août 1913. Article 67. Connais-toi. Je lisais hier, dans une de ces annonces comme on en voit, le grand secret, le moyen assuré de réussir dans la vie, d'agir sur l'esprit des autres et de les disposer favorablement. Il s'agit d'un fluide vital que tout le monde possède, mais dont le célèbre professeur X connaît seul l'usage. Il vous l'apprendra pour 10 francs. Désormais, on pourra dire que ceux qui ne réussissent pas dans leurs entreprises n'avaient pas 10 francs à dépenser, etc. Comme le journal qui imprime ces lignes ne le fait pas pour rien, il est à croire que le professeur de succès et marchand de fluides magnétiques trouve des clients. Comme je réfléchissais là-dessus, il me vint à l'esprit que ce professeur était sans doute bien plus habile qu'il ne croyait. Tout fluide mis à part, que fait-il? S'il donne aux gens un peu de confiance, c'est déjà beaucoup. C'est assez pour que ses clients triomphent de ces petites difficultés dont on se fait des montagnes. La timidité est un grand obstacle, et souvent le seul obstacle. Mais je vois bien mieux. Je vois qu'il les forme à l'attention, à la réflexion, à l'ordre, à la méthode, sans peut-être s'en rendre bien compte lui-même. Dans toutes ces prétendues projections de fluide, il s'agit toujours d'imaginer, avec force, quelqu'un ou quelque chose. Je suppose que le professeur les entraîne peu à peu jusqu'à ce qu'ils sachent fixer leur attention. Par cela seul, il a bien gagné son argent. Car premièrement, les gens sont, par ce moyen, détournés de penser à eux-mêmes, à leur passé, à leurs échecs, à leur fatigue, à leur estomac, et les voilà délivrés d'un fardeau qui s'accroissait d'instant en instant. Que de gens usent leur vie à récriminer. Deuxièmement, ils en viennent à penser sérieusement à ce qu'ils veulent, aux circonstances, aux personnes, et distinctement, au lieu de tout brouiller et ressasser, comme on fait quelquefois en rêve. Qu'après cela le succès leur arrive, cela n'est pas étonnant. Je ne compte pas les hasards favorables qui travaillent pour le professeur. Et quant aux hasards contraires, qui en parlera? Communément, chacun pense qu'il a des ennemis, et se trompe en cela. Les hommes n'ont point tant de suite, mais il est ordinaire que l'on cultive ses ennemis bien plus attentivement que ses amis. Cet homme vous veut du mal, croyez-vous? Il l'a sans doute oublié, mais vous, vous ne l'oubliez point. Seulement, par votre visage, vous lui rappelez ses devoirs. Un homme n'a guère d'autres ennemis que lui-même. Il est toujours à lui-même son plus grand ennemi, par ses faux jugements, par ses vaines craintes, par son désespoir, par les discours déprimants qu'il se tient à lui-même. Dire simplement à un homme « Votre destin dépend de vous », c'est un conseil qui vaut bien 10 francs. On a le fluide par-dessus le marché. Au temps de Socrate, il y avait à Delphes, comme chacun sait, une espèce de sibylle inspirée par Apollon et qui vendait des conseils sur toutes choses. Seulement le dieu, plus honnête que notre marchand de fluide, avait écrit son secret au fronton du temple. Et lorsqu'un homme venait interroger le destin afin de savoir ce que les choses feraient pour ou contre lui, il pouvait lire avant d'entrer ce profond oracle, bon pour tous. Connais-toi. 29 octobre 1909. Article 68. Optimisme. Prions Dieu pour que ce ne soit pas le garde champêtre, disaient des pensionnaires bien naïves, égarés dans les cultures et fort inquiètes à la vue d'un homme qui venait. J'ai considéré plus d'une fois cet exemple, je dirais presque ce modèle de niaiserie, avant de le comprendre humainement. Il est vrai que tout y est confondu, et plus sans doute dans les mots que dans les idées, comme il nous arrive à tous qui avons appris à parler avant d'apprendre à penser. Cette anecdote me revenait à l'esprit comme quelqu'un d'assez intelligent frappait du pied et résistait en présence de cet optimisme voulu, de cette espérance aux yeux fermés, de ce mensonge à soi-même. Et c'était d'Alain qu'il parlait, parce que ce philosophe naïf et presque sauvage encore voulait considérer, malgré des preuves assez évidentes, que les hommes sont volontiers honnêtes, modestes, raisonnables et affectueux. Que la paix et la justice viennent à nous en se tenant par la main, que les vertus guerrières tueront la guerre, que l'électeur choisira les plus dignes, et autres consolations pieuses qui ne changent pourtant point les faits. C'est tout à fait comme si un promeneur se disait sur le seuil de sa porte « Voilà un gros nuage qui me gâte déjà la promenade. Ma foi, j'aime mieux croire qu'il ne pleuvra point. Il vaut mieux voir le nuage plus noir qu'il n'est et prendre un parapluie. » C'est ainsi qu'il se moquait et j'en riais bien. Car ce raisonnement qu'il faisait montre une belle apparence. Mais ce n'est qu'un décor sans épaisseur, et j'eus bientôt touché de mes mains le mur rustique qui est ma maison. Il y a l'avenir qui se fait et l'avenir qu'on fait. L'avenir réel se compose des deux. Au sujet de l'avenir qui se fait, comme orage ou éclipse, il ne sert à rien d'espérer. Il faut savoir et observer avec des yeux secs. Comme on essuie les verres de la lunette, ainsi il faut essuyer la buée des passions sur les yeux. J'entends bien. Les choses du ciel, que nous ne modifions jamais, nous ont appris la résignation et l'esprit géomètre, qui sont une bonne partie de la sagesse. Mais dans les choses terrestres, que de changements par l'homme industrieux. Le feu, le blé, le navire, le chien dressé, le cheval dompté, voilà des œuvres que l'homme n'aurait point faites si la science avait tué l'espérance. Surtout dans l'ordre humain lui-même où la confiance fait partie des faits, je compte très mal si je ne compte point ma propre confiance. Si je crois que je vais tomber, je tombe. Si je crois que je ne puis rien, je ne puis rien. Si je crois que mon espérance me trompe, elle me trompe. Attention là, je fais le beau temps et l'orage, en moi d'abord, autour de moi aussi, dans le monde des hommes. Car le désespoir et l'espoir aussi vont de l'un à l'autre plus vite que ne changent les nuages. Si j'ai confiance, il est honnête. Si je l'accuse d'avance, il me vole. Ils me rendent tous ma monnaie, selon la pièce. Et pensez bien encore à ceci, c'est que l'espérance ne tient que par volonté, étant fondée sur ce qu'on fera si on veut, comme paix et justice. Au lieu que le désespoir s'installe et se fortifie de lui-même par la force de ce qui est. Voilà par quelle remarque on sauve ce qui est à sauver dans la religion et que la religion a perdu, j'entends la belle espérance. 28 janvier 1913. Article 69. Dénoué. Quelqu'un me jugeait hier en peu de mots. Optimisme incurable. Certainement il l'entendait mal, voulant dire que je suis ainsi par nature et que j'en suis bien heureux, mais qu'enfin une bienfaisante illusion n'a jamais passé pour vérité. C'est confondre ce qui est avec ce que l'on veut faire être. Si l'on considère ce qui est de soi, et sans qu'on y travaille, le pessimisme est le vrai, car le cours des choses humaines, dès qu'on l'abandonne, va tout de suite au pire. Par exemple, qui se livre à son humeur est aussitôt malheureux et méchant. Cela est inévitable par la structure de notre corps, qui tourne tout à mal dès qu'on ne le surveille plus, dès qu'on ne le gouverne plus. Observez qu'un groupe d'enfants, faute d'un jeu réglé, en vient aussitôt à la brutalité informe. Ici se montre la loi biologique de l'excitation qui va aussitôt à l'irritation. Faites l'essai de jouer à frapper dans les mains avec un tout petit enfant. Bientôt, il se livrera au jeu avec une sorte de fureur qui résulte de son action même. Autre essai, faites parler un jeune garçon. Admirez-le seulement un peu. Il arrivera à l'extravagance dès qu'il aura vaincu la timidité. La leçon vous fera rougir vous-même, car elle est bonne pour tous, en même temps qu'amère pour tous. Quiconque se lance à parler sans gouverner la machine dit promptement assez de sottises pour maudire ensuite sa propre nature et désespérer de lui-même. Jugez d'après cela une foule en effervescence, et vous en attendrez tout le mal possible, sans compter toute la sottise possible, en quoi vous ne vous tromperez point. Mais celui qui connaît le mal par les causes apprendra à ne point maudire et à ne point désespérer. La maladresse est la loi de tout essai, dans n'importe quel genre. Le corps non formé par gymnastique s'emporte aussitôt, et que ce soit dessin ou escrime ou équitation ou conversation, aussitôt vise mal et manque naturellement le but. Cela étonne et semble donner raison aux pessimistes, mais il faut comprendre par les causes, et la principale chose à considérer ici, c'est cette liaison de tous les muscles qui fait que chacun d'eux, dès qu'ils se remuent, éveillent tous les autres, et non point d'abord ceux qui doivent coopérer. Le maladroit pèse de tout son corps sur le moindre mouvement, et chacun est maladroit d'abord quand ce ne serait que pour enfoncer un clou. Cependant, il n'est point de limite au savoir-faire que l'on peut acquérir en s'exerçant. Tous les arts et tous les métiers en témoignent, et le dessin, ce tracé du geste, est peut-être le témoignage le plus éloquent de tous quand il est beau. Car cette main lourde, impatiente, irritée, chargée de tout le corps, est pourtant capable de ce trait léger, retenu et comme purifié, soumis en même temps au jugement et à la chose. Et l'homme qui crie et s'irride la gorge est le même qui chantera, car chacun reçoit en héritage ce paquet de muscles, tremblants et noués. Il faut dénouer, et ce n'est pas un petit travail. Et chacun sait bien que la colère et le désespoir sont les premiers ennemis à vaincre. Il faut croire, espérer et sourire, et avec cela travailler. Ainsi la condition humaine est telle que si on ne se donne pas comme règle des règles un optimisme invincible, aussitôt le plus noir pessimisme est le vrai. 27 décembre 1921.
Article 70. Patience. Quand je vais prendre le train, j'entends toujours des gens qui disent « Vous n'arrivez qu'à telle heure, comme ce voyage est long et ennuyeux. » Le mal est qu'il le croit. Et c'est là que notre stoïcien aurait 10 fois raison quand il dit « Supprime le jugement, tu supprimes le mal. » Si l'on regardait les choses autrement, on serait conduit à considérer un voyage en chemin de fer comme un des plaisirs les plus vifs. Si l'on ouvrait quelques panoramas où l'on verrait les couleurs du ciel et de la terre et la fuite des choses comme sur une grande roue dont le centre serait au fond de l'horizon, si l'on donnait un tel spectacle, tout le monde voudrait l'avoir vu. Et si l'inventeur réalisait aussi la trépidation du train et tous les bruits du voyage, cela paraîtrait encore plus beau. Or, toutes ces merveilles, dès que vous montez en chemin de fer, vous les avez gratis. Oui, gratis, car vous payez pour être transporté, non pour voir des vallées, des fleuves et des montagnes. La vie est pleine de ces plaisirs vifs qui ne coûtent rien et dont on ne jouit pas assez. Il faudrait des écriteaux dans toutes les langues et un peu partout pour dire « Ouvrez les yeux, prenez du plaisir ». À quoi vous répondez « Je suis voyageur, non spectateur. Une affaire importante veut que je sois ici ou là le plus tôt que je pourrai. C'est à cela que je pense. Je compte les minutes et les tours de roue. Je maudis ces arrêts et ces employés indolents qui poussent les mâles sans passion. Moi, je pousse les miennes en idées.
Je pousse le train, je pousse le temps. Vous dites que c'est déraisonnable, et moi je dis que c'est naturel et inévitable, si l'on a un peu de sang dans les veines. Assurément, il est bon d'avoir du sang dans les veines. Mais les animaux qui ont triomphé sur cette terre ne sont pas les plus colériques. Ce sont les raisonnables, ceux qui gardent leur passion pour le juste moment. Ainsi, le terrible escrimeur, ce n'est pas celui qui frappe du pied la planche et qui part avant de savoir où il ira. C'est ce flegmatique qui attend que le passage soit ouvert et qui y passe soudainement comme une hirondelle. De même, vous qui apprenez à agir, ne poussez pas votre wagon puisqu'il marche sans vous. Ne poussez pas le majestueux et imperturbable temps qui conduit tous les univers ensemble d'un instant à un autre instant. Les choses n'attendent qu'un regard pour vous prendre et vous porter. Il faudrait apprendre à être bon et ami pour soi-même. 11 décembre 1910. Article 71. Bienveillance. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. Cette sévère parole de La Bruyère doit déjà nous rendre prudents, car le bon sens veut que chacun s'adapte aux conditions réelles de la vie en société, et il n'est point juste de condamner l'homme moyen. C'est folie de misanthrope. Donc, sans chercher les causes, je me garde de considérer mes semblables comme si j'étais un spectateur qui a payé sa place et qui veut qu'on lui plaise. Mais au contraire, repassant en moi-même l'ordinaire de cette difficile existence, je mets d'avance tout au pire. Je suppose que l'interlocuteur a un mauvais estomac ou la migraine, ou bien des soucis d'argent, ou des querelles domestiques. Ciel douteux, me dis-je, ciel de mars, gris et bleu mêlé, éclair de soleil et bise aigre, j'ai ma fourrure et mon parapluie. Bon, mais il y a mieux à penser là-dessus, si l'on songe à cet instable corps humain, frémissant à la moindre touche, toujours penchant, bientôt emporté, produisant gestes et discours selon sa forme, selon la fatigue et selon les actions étrangères. C'est pourtant ce corps humain qui doit m'apporter, comme un bouquet de fêtes, les sentiments constants, les égards et les agréables propos auxquels il me semble que j'ai droit. Cependant, moi-même qui suis si attentif à l'autre, je ne le suis guère à moi. Je lance des messages que j'ignore par un geste machinal, par un froncement de sourcils. Le soleil et le vent composent mon visage. J'offre ainsi à l'autre justement ce que je m'étonne de trouver en lui. Un homme, c'est-à-dire un animal qui a charge d'esprit, que l'on prend toujours trop haut, puis trop bas, qui ne peut faire un signe sans en faire 10, bien plutôt qui fait signe de toute sa personne, sans pouvoir choisir. En ce mélange, je dois, comme un chercheur d'or, négliger le gravier et le sable, et reconnaître la plus petite paillette. C'est à moi de chercher. Aucun homme ne crible les discours qu'il lance, comme il fait de ceux qu'il entend. Me voilà donc disposé selon la politesse, et encore mieux. J'ouvre un large crédit à l'autre. Je laisse les scories, j'attends sa vraie pensée. Mais ici, je remarque un autre effet auquel on ne s'attend jamais assez. Cette bienveillance que je fais voir délie aussitôt ce timide qui s'avance en armes et tout hérissé. Bref, de ces deux humeurs qui roulent l'une vers l'autre comme des nuages, il faut que l'une commence à sourire. Si ce n'est point vous qui commencez, vous n'êtes qu'un sot. Il n'est point d'homme dont on ne puisse dire et penser beaucoup de mal. Il n'est point d'homme dont on ne puisse dire et penser beaucoup de bien. Et la nature humaine est ainsi faite qu'elle n'a point peur de déplaire. Car l'irritation qui donne courage suit la timidité de bien près. Et le sentiment que l'on a d'être désagréable rend aussitôt pire. Mais c'est à vous, qui avez compris ces choses, de ne point entrer dans ce jeu. C'est une expérience étonnante que celle-ci, et que je vous prie de faire une fois. Il est plus facile de gouverner directement l'humeur des autres que la sienne propre. Et qui manie avec précaution l'humeur de l'interlocuteur est médecin de la sienne propre par ce moyen. Car, dans la conversation ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. 8 avril 1922. Article 72. Injures. Si un phonographe vous couvrait soudainement d'injures, cela vous ferait rire. Si un homme de mauvaise humeur, mais à peu près sans voix, faisait marcher un phonographe à injures pour contenter sa colère, personne ne croirait que telle injure, blessante par hasard, lui était destiné. Mais quand c'est la face humaine qui lance l'injure, chacun veut croire que tout ce qu'elle dit était prémédité, ou tout au moins est pensé dans l'instant même. Ce qui trompe, c'est l'éloquence des passions et l'espèce de sens qu'offrent presque toujours des paroles produites sans pensée par une bouche humaine. Descartes a écrit le plus beau de ses ouvrages et trop peu lu, c'est le Traité des passions, justement pour expliquer comment notre machine, par sa forme et par le pli de l'habitude, arrive aisément à jouer la pensée. Pour nous-mêmes aussi, car lorsque nous sommes bien en colère, d'abord nous imaginons mille choses qui s'accordent très bien avec notre fureur physique et qui, par la vivacité, sont autant de preuves. Et puis nous produisons en même temps des discours souvent pleins d'accent et de vraisemblance qui nous touchent nous-mêmes comme ferait le jeu d'un bon acteur. Si quelque autre s'échauffe par imitation et nous donne la réplique, voilà un beau drame.
Ou pourtant,
il est vrai que les pensées suivent les paroles au lieu de les précéder. La vérité de théâtre est sans doute en ceci que les personnages ne cessent de réfléchir sur ce qu'ils ont dit. Leurs paroles sont comme des oracles dont ils cherchent le sens. Dans un bon ménage, les discours improvisés dans le jeu de l'impatience atteignent souvent le comble du ridicule. Il faut savoir rire de ces belles improvisations. Mais la plupart des gens ignorent tout à fait cet automatisme des émotions. Ils prennent tout naïvement, comme des héros d'Homère, de là des haines qu'il faut appeler imaginaires. J'admire l'assurance d'un homme qui est. Un arbitre n'écoute guère un témoin qui s'échauffe jusqu'à la fureur. Mais dès qu'un homme est en cause, il se croit lui-même. Il croit tout. Une de nos erreurs les plus étonnantes et d'attendre que la colère laisse sortir une pensée longtemps cachée. Cela n'est pas vrai une fois sur mille. Il faut qu'un homme se possède s'il veut dire ce qu'il pense. Cela est évident, mais l'entraînement, l'emportement, la précipitation à chercher la réplique vous le feront oublier. Le bon abbé Pirard, dans Le Rouge et le Noir, prévoit la chose. « Je suis sujet, dit-il à son ami, à prendre de l'humeur. Il se peut que nous cessions de nous parler. » La naïveté ne peut aller plus loin. Quoi ? Si ma colère est un fait de phonographe, j'entends de bile, d'estomac et de gosier. Et si je le sais bien, ne puis-je siffler ce mauvais acteur tragique au milieu même de son discours ? Il est à supposer que les jurons, qui sont des exclamations entièrement dépourvues de sens, ont été inventés comme instinctivement pour donner issue à la colère, sans rien dire de blessant et d'irréparable. Et nos cochers, dans les encombrements, serait donc philosophe sans le savoir. Mais il est bien plaisant de voir que parmi ces cartouches à blanc, quelquefois il y en a une qui blesse, par hasard. On peut m'injurier en russe, je n'y entends rien, mais si par hasard je savais le russe. Réellement, toute injure est charabia. Comprendre bien cela, c'est comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. 17 novembre 1913. Article 73. Bonne humeur. Si j'avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang des devoirs. Je ne sais quelle féroce religion nous a enseigné que la tristesse est grande et belle, et que le sage doit méditer sur la mort en creusant sa propre tombe. Comme j'avais 10 ans, je visitais la grande trappe. Je vis ces tombes qu'il creusait un peu tous les jours, et la chapelle mortuaire où les morts restaient une bonne semaine pour l'édification des vivants. Ces images lugubres et cette odeur cadavérique me poursuivirent longtemps. Mais ils avaient voulu trop prouver. Je ne puis pas dire au juste, parce que je l'ai oublié, à quel moment et pour quelle raison je sortis du catholicisme. Mais dès ce moment-là, je me dis, il n'est pas possible que ce soit là le vrai secret de la vie. Tout mon être se révoltait contre ces moines pleurards, et je me délivrais de leur religion comme d'une maladie. J'ai tout de même l'empreinte, nous l'avons tous, nous geignons trop aisément et pour de trop petites causes, et même quand les circonstances nous apportent une vraie peine, nous croyons devoir la manifester. Ils courent à ce sujet de faux jugements qui sentent le sacristain. On pardonnerait tout à un homme qui sait bien pleurer. Aussi il faut voir quelles tragédies sont jouées sur les tombes. L'orateur est comme brisé, et les mots sont pris dans sa gorge. Un ancien aurait pitié de nous, il se dirait Comment, ce n'est donc point un consolateur qui parle, ce n'est donc point un guide pour la vie, ce n'est qu'un acteur tragique, un maître de tristesse et de mort. Et que penserait-il du sauvage, dit Sirae ? Je crois qu'il renverrait cet hymne à la tragédie. Car, dirait-il, c'est quand je suis hors de peine que je puis me donner le spectacle des passions déprimantes. C'est alors une bonne leçon pour moi. Mais dès qu'une vraie peine tombe sur moi, je n'ai d'autre devoir alors que de me montrer homme et de serrer fortement la vie, et de réunir ma volonté et ma vie contre le malheur, comme un guerrier qui fait face à l'ennemi, et parler des morts avec amitié et joie autant que je le pourrai. Mais eux, avec leur désespoir, ils feraient rougir les morts si les morts les voyaient. Oui, il nous reste, après avoir écarté les mensonges des prêtres, à prendre la vie noblement, et à ne point nous déchirer nous-mêmes et les autres par contagion, par des déclamations tragiques. Et encore bien mieux, car tout se tient, contre les petits maux de la vie, ne point les raconter, les étaler, ni les grossir, être bon avec les autres et avec soi, les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre, voilà la vraie charité. La bonté est joie, l'amour est joie. 10 octobre 1909. Article 74. Une cure. Après qu'ils eurent raconté leurs bains, leurs douches et leur régime, « Moi, dit l'autre, je fais depuis 15 jours une cure de bonne humeur, et je m'en trouve très bien. Il y a des temps où les pensées deviennent âcres, où l'on critique tout avec fureur, où l'on ne voit plus rien de beau ou de bien, ni dans les autres, ni dans soi-même. Quand les idées tournent de ce côté-là, cela signifie qu'il faut faire une cure de bonne humeur. Cela consiste à exercer sa bonne humeur contre toute mauvaise fortune, et surtout contre les choses de peu qui vous feraient partir en imprécation, si l'on était justement dans la cure de bonne humeur. Alors ces petits ennuis sont au contraire très utiles, comme les côtes pour vous faire des mollets. Il y a, dit encore l'autre, des gens ennuyeux, qui se réunissent pour récriminer et geindre. On les fuit en temps ordinaire. Mais dans la cure de bonne humeur, au contraire, on les recherche. Ils sont comme ces ressorts pour la gymnastique en chambre. Après avoir tiré sur les plus petits, pour commencer, on arrive à tendre les gros. De même, je range mes amis et connaissances par ordre de mauvaise humeur croissante, et je m'exerce aux uns après les autres. Quand ils sont encore plus aigres que d'habitude, plus ingénieux à cracher dans tous les plats, je me dis « Oh, la bonne épreuve ! Courage, mon cœur ! Va, soulève encore cette plainte-là » Les choses, dit encore l'autre, sont souvent bonnes aussi, je veux dire mauvaises, autant qu'il faut pour une cure de bonne humeur. Un ragoût brûlé, du vieux pain, le soleil, la poussière, des comptes à faire, la bourse presque à sec, cela donne lieu à de précieux exercices. On se dit comme à la boxe ou à l'escrime, voilà un maître coup qui m'arrive. Il s'agit de le parer ou de l'encaisser proprement. En temps ordinaire, on se met à crier comme les enfants et l'on est si honteux de crier que l'on crie encore plus fort. Mais en cure de bonne humeur, les choses se passent tout à fait autrement. On reçoit la chose comme une bonne douche, on se secoue, on hausse les épaules en deux temps, et puis on étire ses muscles, on les assouplit, on les jette les uns sur les autres comme des linges mouillés. Alors le flot de la vie coule ainsi qu'une source délivrée. L'appétit va, la lessive se fait, la vie sent bon. Mais, dit-il, je vous laisse, vous avez maintenant des figures épanouies. Vous n'êtes plus bons à rien pour ma cure de bonne humeur. 24 septembre 1911. Article 75. Hygiène de l'esprit. Je lisais hier un article sur une certaine espèce de fous à opinion qui, à force de voir les choses toujours sous le même angle, finissent par se croire persécutés et sont bientôt dangereux et bons à enfermer. Cette lecture qui me jetait dans de tristes pensées, quoi de plus triste à considérer qu'un fou, me rappela pourtant une bonne réponse que j'avais entendue. Comme on parlait en présence d'un sage, d'un demi-fou à persécution qui, par surcroît, avait toujours froid aux pieds, ce sage dit « défaut de circulation dans le sang et de circulation dans les idées ». Le mot est bon à méditer. Il est sûr que chacun de nous a des pensées de fou, autant qu'on voudra, comme rêves ou associations burlesques entre des images. C'est le langage intérieur surtout qui trébuche, et qui, par une faute de prononciation, nous jette souvent à quelque idée absurde. Seulement, nous n'y restons pas. Chez l'homme normal, il se fait un continuel changement d'idées comme dans un vol de moucherons. Et nous oublions tellement toutes nos folies que nous ne serions jamais capables de répondre exactement à cette question qui paraît si simple « À quoi pensez-vous » Cette circulation des idées conduit souvent à une certaine futilité et puérilité. Elle est pourtant la santé même de l'esprit. Et si j'avais à choisir, j'aimerais mieux être insouciant que maniaque. Je ne sais si ceux qui instruisent les enfants et les hommes ont assez réfléchi là-dessus. À les entendre, on croirait que le principal est d'avoir des idées bien cimentées et bien lourdes à remuer. À quoi ils nous habituent de bonne heure par leurs ridicules exercices de mémoire, et nous traînons toute notre vie des chapelets de mauvais vers et de maximes creuses qui nous font buter à chaque pas. Dans la suite, on nous enferme dans quelques spécialités à litanie. On nous dresse à remâcher, et cela devient dangereux par l'âge, dès que nos humeurs donnent de l'amertume à nos pensées. Nous récitons mentalement notre tristesse comme nous récitions la géographie en vers. Condez-nous les esprits, au contraire. Je donnerai comme règle d'hygiène « n'aie jamais deux fois la même pensée ». À quoi l'hypochondriaque dira « je n'y peux rien, c'est que mon cerveau est fait ainsi, arrosé de sang plus ou moins ». C'est clair, mais nous connaissons justement une méthode pour masser le cerveau. Il ne faut que changer d'idée, et ce n'est pas difficile si l'on y est entraîné. Il y a deux pratiques infaillibles pour purger la cervelle. L'une consiste à regarder autour de soi et à se donner comme une douche de spectacle. Il n'en manque jamais. L'autre consiste à remonter des effets aux causes, ce qui est un moyen assuré de chasser les images noires. Car la chaîne des causes et des effets nous emmène en voyage, et tout de suite fort loin. C'est une autre manière d'interroger l'oracle, comme si, au lieu de rechercher par quelle pensée la pitié m'a prédit que je finirais avare, je voulais comprendre comment sa bouche a formé ce mot-là, plutôt qu'un autre. Me voilà aux voyelles et aux consonnes, et à la pente naturelle qui nous conduit de l'une à l'autre. Toute la phonétique entre en scène. Quelqu'un avait fait un rêve un peu effrayant. Comme je l'invitais à en chercher les vraies causes, qui sont souvent dans des perceptions jointes à de petits malaises, il se lança dans les hypothèses, et je vis qu'il était délivré. La circulation était rétablie. 9 octobre 1909. Article 76. L'hymne au lait. Je trouve en Descartes cette idée que la passion de l'amour est bonne pour la santé, et la haine, au contraire, mauvaise. Idée connue, mais non assez familière. Pour mieux dire, on n'y croit point. On en rirait, si Descartes n'était presque autant au-dessus de la moquerie que sont Homère ou la Bible. Ce ne serait pourtant pas un petit progrès si les hommes s'avisaient de faire par amour tout ce qu'ils font par haine, choisissant, en ces choses mêlées qui sont hommes, actions et œuvres, toujours ce qui est beau et bon pour l'aimer. Et c'est le plus puissant moyen de rabaisser ce qui est mauvais. En bref, il est meilleur, il est plus juste, il est plus efficace d'applaudir à la bonne musique que de siffler à la mauvaise. Pourquoi ? Parce que l'amour est physiologiquement fort et la haine physiologiquement faible. Mais le propre des hommes passionnés est de ne pas croire un seul mot de ce que l'on écrit sur les passions. Il faut donc comprendre par les causes. Et je trouve aussi ces causes en Descartes. Car quel est, dit-il, notre premier amour, notre plus ancien amour, sinon de se sent enrichi de bonne nourriture, de cet air pur, de cette douce chaleur, enfin de tout ce qui fait croître le nourrisson. C'est en nos premières années que nous avons appris ce langage de l'amour, d'abord de lui-même à lui-même, et exprimé par ce mouvement, par cette flexion, par ce délicieux accord des organes vitaux, accueillant le bon lait. Tout à fait de la même manière que la première approbation fut ce mouvement de la tête qui dit oui à la bonne soupe. Et observez tout au contraire comme la tête et tout le corps de l'enfant disent non à la soupe trop chaude. De la même manière aussi, l'estomac, le cœur, le corps entier disent non à tout aliment qui peut nuire, et jusqu'à le rejeter par cette nausée qui est la plus énergique et la plus ancienne expression du mépris, du blâme et de l'aversion. C'est pourquoi, avec la brièveté et la simplicité homérique, Descartes dit que la haine, en tout homme, est contraire à la bonne digestion. On peut agrandir, on peut enfler cette idée admirable. On ne la fatiguera point, on n'en trouvera point les limites. Le premier hymne d'amour fut cet hymne au lait maternel, chanté par tout le corps de l'enfant, accueillant, embrassant, écrémant de tous ses moyens la précieuse nourriture. Et cet enthousiasme a été physiologiquement le premier modèle et le vrai modèle de tout enthousiasme au monde. Qui ne voit que le premier exemple du baiser est dans le nourrisson ? Il n'oublie jamais rien de cette piété première, il baise encore la croix. Car il faut bien que nos signes soient de notre corps. Et pareillement le geste de maudire est l'ancien geste des poumons qui refusent l'air vicié, de l'estomac qui rejette le lait aigre, de tous les tissus en défense. Quel profit peux-tu espérer de ton repas, ô liseur imprudent, si la haine assaisonne les plats ? Que ne lis-tu le traité des passions de l'âme ? Il est vrai que ton libraire ne sait pas seulement ce que c'est, et que ton psychologue ne le sait guère mieux. C'est presque tout que de savoir lire. 21 janvier 1924. Article 77. Amitié. Il y a de merveilleuses joies dans l'amitié. On le comprend sans peine si l'on remarque que la joie est contagieuse. Il suffit que ma présence procure à mon ami un peu de vraie joie pour que le spectacle de cette joie me fasse éprouver à mon tour une joie. Ainsi, la joie que chacun donne lui est rendue. En même temps, des trésors de joie sont mis en liberté, et tous deux se disent « j'avais en moi du bonheur dont je ne faisais rien ». La source de la joie est au-dedans, j'en conviens, et rien n'est plus attristant que de voir des gens mécontents d'eux et de tout, qui se chatouillent les uns les autres pour se faire rire. Mais il faut dire aussi que l'homme content, s'il est seul, oublie bientôt qu'il est content. Toute sa joie est bientôt endormie. Il en arrive à une espèce de stupidité
et presque d'insensibilité. Le sentiment intérieur a besoin de mouvements extérieurs.
Si quelque tyran m'emprisonnait pour m'apprendre à respecter les puissances, j'aurais comme règle de santé de rire tout seul, tous les jours. Je donnerais de l'exercice à ma joie comme j'en donnerais à mes jambes. Voici un paquet de branches sèches. Elles sont inertes en apparence comme la terre. Si vous les laissez là, elles deviendront terre. Pourtant, elles enferment une ardeur cachée qu'elles ont prise au soleil. Approchez d'elles la plus petite flamme, et bientôt vous aurez un brasier crépitant. Il fallait seulement secouer la porte et réveiller le prisonnier. C'est ainsi qu'il faut une espèce de mise en train pour réveiller la joie. Lorsque le petit enfant rit pour la première fois, son rire n'exprime rien du tout. Il ne rit pas parce qu'il est heureux, je dirais plutôt qu'il est heureux parce qu'il rit. Il a du plaisir à rire, comme il en a à manger. Mais il faut d'abord qu'il mange. Cela n'est pas vrai seulement pour le rire. On a besoin aussi de paroles pour savoir ce que l'on pense. Tant qu'on est seul, on ne peut être soi. Les nigauds de moralistes disent qu'aimer, c'est s'oublier. Vu trop simple, plus on sort de soi-même et plus on est soi-même, mieux aussi on se sent vivre. Ne laisse pas pourrir ton bois dans ta cave. 27 décembre 1907. Article 78 de l'irrésolution. Descartes dit que l'irrésolution est le plus grand des maux. Il le dit plus d'une fois, il ne l'explique jamais. Je ne connais point de plus grande lumière sur la nature de l'homme, toutes leurs passions, tous leurs stériles mouvements s'expliquent par là. Les jeux de hasard si mal connus en leur puissance, qui est sur le haut de l'âme, plaisent parce qu'ils entretiennent le pouvoir de décider. C'est comme un défi à la nature des choses, qui met tout presque égal et qui nourrit sans fin nos moindres délibérations. Dans le jeu, tout est égal à la rigueur et il faut choisir. Ce risque abstrait est comme une insulte à la réflexion. Il faut sauter le pas. Le jeu répond aussitôt et l'on ne peut avoir de ces repentirs qui empoisonnent nos pensées. On n'en peut avoir parce qu'il n'y avait pas de raison. On ne dit point « si j'avais su » puisque la règle est qu'on ne peut savoir. Je ne m'étonne pas que le jeu soit le seul remède à l'ennui, car l'ennui est principalement de délibérer tout en sachant bien qu'il est inutile de délibérer. On peut se demander de quoi souffre un homme amoureux qui ne dort point ou bien l'ambitieux déçu. Ce genre de mal est tout dans la pensée, quoi qu'on puisse dire aussi qu'il est tout dans le corps. Cette agitation qui chasse le sommeil ne vient que de ces vaines résolutions qui ne décident rien et qui sont lancées à chaque fois dans le corps et qui le font sauter comme poisson sur l'herbe. Il y a de la violence dans l'irrésolution. C'est dit « je romprai tout ». Mais la pensée offre aussitôt des moyens d'accommoder. Les effets paraissent, d'un parti et de l'autre, sans jamais aucun progrès. Le bénéfice de l'action réelle est que le parti que l'on n'a point pris est oublié, et à parler proprement, n'a plus lieu, parce que l'action a changé tous les rapports. Mais agir en idée, ce n'est rien, et tout reste en l'état. Il y a du jeu dans toute action, car il faut bien terminer les pensées avant qu'elles aient épuisé leur sujet. J'ai souvent pensé que la peur, qui est la passion nue et la plus pénible, n'est autre chose que le sentiment d'une irrésolution, si je puis dire musculaire. L'on se sent sommé d'agir et incapable. Le vertige offre un visage de la peur encore mieux nettoyé, puisque le mal ne vient ici que d'un doute qu'on ne peut surmonter. Et c'est toujours par trop d'esprit que l'on souffre de peur. Certainement le pire dans les maux de ce genre, comme aussi dans l'ennui, et que l'on se juge incapable de s'en délivrer. L'on se pense machine et l'on se méprise. Tout décarte est rassemblé en ce jugement souverain, où les causes se montrent, et aussi le remède. Vertu militaire, et je comprends que Descartes ait voulu servir. Turenne remet toujours, et ainsi se guérissait du mal d'irrésolution et le donnait à l'ennemi. Descartes en ses pensées est tout de même. Hardy en ses pensées est toujours se mouvant, par son décret. Toujours décidant. L'irrésolution d'un géomètre serait profondément comique, car elle serait sans fin. Combien de points dans une ligne? Et sait-on ce que l'on pense lorsque l'on pense deux parallèles? Mais le génie du géomètre décide qu'on le sait, et jure seulement de ne point changer ni revenir. On ne verra rien d'autre en une théorie, si l'on regarde bien, que des erreurs définies et jurées. Toute la force de l'esprit dans ce jeu est de ne jamais croire qu'il constate, alors qu'il a seulement décidé. Là se trouve le secret d'être toujours assuré sans jamais rien croire. Il a résolu, voilà un beau mot, et 200 en un. 10 août 1924.
Article 79.
Cérémonie. Si l'irrésolution est le pire des maux, on comprend que la cérémonie, la fonction, le costume, la mode, soient les dieux de ce monde. Toute improvisation irrite, non pas tant par l'idée de ce qu'on pourrait faire ou dire d'autre, mais plutôt par le mélange de deux actions dans le corps, ce qui affole nos serviteurs les muscles, et par un prompt effet le cœur notre tyran. Un homme surpris et mis en demeure est un malade. C'est pourquoi la liberté rend l'homme méchant. L'enfant le montre, il n'y a point de jeu libre qui ne tourne au brutal. Sur quoi l'on se tromperait bien si l'on supposait de mauvais instincts toujours bandés comme des arcs et que la loi réprime. Mais la loi plaît, et au contraire, l'absence de loi déplaît et irrite par l'irrésolution, ce qui jette à l'extravagance. L'homme nu est frénétique, le costume est déjà une loi, et toute loi plaît comme un costume. Louis XIV eut un pouvoir étonnant et en apparence inexplicable sur ceux qui l'approchaient. Cela venait de toutes ces lois qu'il établissait pour lever, coucher, chaises percées. Il ne faut point dire que c'est parce qu'il avait puissance qu'il imposait ces lois. Mais au contraire, il faut dire qu'il avait puissance parce qu'il était lui-même loi. Chacun autour savait, à un pas près, ce qu'il avait à faire, d'où quelques idées de la paix égyptienne. La guerre a tout pour déplaire, mais le raisonnement se trompe là. C'est que les hommes y trouvent aussitôt la paix. Je dis la vraie paix, celle qui habite en notre peau. Chacun sait ce qu'il a à faire. La raison vainement évoque le malheur, mais elle n'effraie point. Elle n'arrive pas à recouvrir un fond d'allégresse. Chacun voit une fonction bien définie, qui est son lot, et des actions qu'il ne peut remettre. Toute sa pensée y court, et le corps suit.
et ce consentement fait aussitôt un état de choses humaines qu'il faut subir, comme on fait d'un cyclone. On s'étonne que les pouvoirs obtiennent tant, mais ils obtiennent beaucoup justement parce qu'ils demandent beaucoup. Ainsi est la règle monastique qui guérit si bien l'irrésolution. Ce n'est rien de conseiller la prière, il faut ordonner telle prière à telle heure. La sagesse propre au pouvoir en vient toujours à un commandement tout sec, sans aucune raison. La moindre raison fera naître aussitôt deux pensées et mille. Certes, il est agréable de penser, mais il faut que le plaisir de penser se paie de l'art de décider. Ce modèle de l'homme est en Descartes, et l'on sait qu'il fit la guerre, on ne peut dire pour son plaisir, mais par une méthode de se délivrer des pensées qui le touchaient trop. On voudrait rire de la mode, mais la mode est quelque chose de très sérieux. L'esprit se donne l'air de mépriser, mais il met d'abord une cravate. L'uniforme et le froc font voir des effets étonnants pour calmer. Ce sont des vêtements de sommeil. Ce sont des plis de la douce paresse, de la plus douce paresse, celle qui agit sans penser. La mode va à la même fin, mais en ménageant la joie de choisir, qui est toute en imagination. Les couleurs attirent, mais la nécessité de choisir ferait peur. Ici, le mal n'est montré que pour mieux faire goûter le remède, comme au théâtre. D'où cette sécurité hier en rouge et retrouvée en bleu. C'est un accord d'opinion et c'est l'accord qui fait preuve. D'où une sérénité qui réellement embellit. Car il est vrai que le jaune ne va guère aux blondes ni le vert aux brunes. Mais la grimace de l'inquiétude, de l'envie et du regret ne va à personne. 26 septembre 1923. Article 80. Bonne année. Tous ces cadeaux, en temps d'étrenne, arrivent à remuer plus de tristesse que de joie, car personne n'est assez riche pour entrer dans l'année nouvelle sans faire beaucoup d'additions. Et plus d'un gémira en secret sur les nids à poussière qu'il aura reçus des uns et des autres, et qu'il aura donné aux uns et aux autres pour enrichir les marchands. J'entends encore cette petite fille dont les parents ont beaucoup d'amis et qui disait, en considérant le premier buvard qu'elle recevait
à une fin d'année,
« Bon, voilà les buvards qui arrivent !» Il y a bien de l'indifférence et aussi des colères rentrées dans cette fureur de donner. L'obligation gâte tout. Et en même temps, les bonbons de chocolat chargent l'estomac et nourrissent la misanthropie. Bah, donnons vite et mangeons vite, ce n'est qu'un moment à passer. Venons au sérieux. Je vous souhaite la bonne humeur. Voilà ce qu'il faudrait offrir et recevoir. Voilà la vraie politesse qui enrichit tout le monde, et d'abord celui qui donne. Voilà le trésor qui se multiplie par l'échange. On peut le semer le long des rues, dans les tramways, dans les kiosques à journaux. Il n'en perdra pas un atome. Elle poussera et fleurira partout où vous l'aurez jeté. Quand il se fait à quelques carrefours un entrelacement de voitures, ce ne sont que jurons et invectives, et les chevaux tirent de toute leur force, ce qui fait que le mal s'aggrave de lui-même. Tout embarras est ainsi, facile à démêler si l'on voulait sourire, mesurer ses efforts, détendre un peu toutes les colères qui tirent à hue et à dia. Mais bientôt, ne gordien, au contraire, si l'on tire en grinçant des dents sur tous les bouts de corde. Madame grince, la cuisinière grince, le gigot sera trop cuit. De là des discours furibonds. Pour que tous ces Prométhées fussent déliés et libres, il ne fallait pourtant qu'un sourire au bon moment. Mais personne ne songe à une chose aussi simple. Tous travaillent à bien tirer sur la corde qui les étrangle. La vie en commun multiplie les maux. Vous entrez dans un restaurant. Vous jetez un regard ennemi au voisin, un autre au menu, un autre au garçon. C'en est fait. La mauvaise humeur court d'un visage à l'autre. Tout se heurte autour de vous. Il y aura peut-être des verres cassés et le garçon battra sa femme ce soir. Saisissez bien ce mécanisme et cette contagion. Vous voilà magicien et donneur de joie, Dieu bienfaisant partout. Dites une bonne parole, un bon merci, soyez bon pour le veau froid. Vous pourrez suivre cette vague de bonne humeur jusqu'aux plus petites plages. Le garçon interpellera la cuisine d'un autre ton et les gens passeront autrement entre les chaises. Ainsi la vague de bonne humeur s'élargira autour de vous, allégera toute chose et vous-même. Cela est sans fin. Mais veillez bien au départ,
Commencez bien la journée et commencez bien l'année. Quel tumulte dans cette rue étroite! Que d'injustice, que de violence! Le sang coule! Il faudra que les juges s'en mêlent. Tout cela pouvait être évité par la prudence d'un seul cocher, par un tout petit mouvement de ses mains. Sois donc un bon cocher, donne-toi de l'aise sur ton siège et tiens ton cheval en main. 2 janvier 1910. Article 81. Vœux. Tous ces souhaits et tous ces vœux, floraison de janvier, ce ne sont que des signes, soit. Mais les signes importent beaucoup. Les hommes ont vécu pendant des siècles de siècles, d'après des signes, comme si tout l'univers, par les nuages, la foudre et les oiseaux, leur souhaitait bonne chasse ou mauvais voyage. Or, l'univers n'annonce qu'une certaine chose après une autre. Et l'erreur était seulement d'interpréter ce monde comme un visage qui aurait approuvé ou blâmé. Nous sommes à peu près guéris de nous demander si l'univers a une opinion, et laquelle. Mais nous ne serons jamais guéris de nous demander si nos semblables ont une opinion, et laquelle. Nous n'en serons jamais guéris parce que cette opinion, dès qu'elle est signifiée, change profondément la nôtre. Chose digne de remarque, on se trouve plus fort contre une opinion appuyée de raison et en paroles explicites que contre une opinion muette. Le premier genre d'opinion, qui est conseil, il faut souvent le mépriser. L'autre, on ne peut le mépriser. Il nous prend plus bas. Et comme nous ne savons pas comment il nous prend, nous ne savons pas comment nous en déprendre. Il y a de ces visages qui portent affichés comme un blâme universel. En ce cas, fuyez si vous pouvez. Car il faut que l'homme imite l'homme. Et me voilà, par le jeu de mon visage et sans que je puisse m'en rendre compte, me voilà moi aussi à blâmer. À blâmer quoi? Je n'en sais rien. Mais cette couleur triste éclaire toutes mes idées et tous mes projets. Je cherche des raisons en ces idées mêmes et en ces projets mêmes. Je cherche des raisons et j'en trouve toujours, car tout est compliqué et il y a des risques partout. Et comme enfin il faut agir et se risquer, quand ce ne serait que pour traverser une rue, j'agis sans confiance, c'est-à-dire moins vivement, moins librement. Un homme qui a l'idée qu'il va se faire écraser n'est point aidé par là, mais au contraire paralysé. Dans les affaires plus longues, plus composées, plus incertaines, l'effet de ces pressentiments que l'on reçoit d'un visage ennemi est encore plus sensible. Un certain œil sera toujours sorcier. J'en reviens à cette fête de la politesse, qui est une importante fête. Dans le temps où chacun regarde cet avenir sur carton que le facteur nous apporte, il est très mauvais que ces semaines et ces mois, que nous ne pouvons connaître tels qu'ils seront, soient teints d'humeur chagrine. Bonne règle, donc, qui veut que chacun soit bon prophète ce jour-là, que chacun élève les couleurs de l'amitié. Un pavillon au vent peut réjouir l'homme. Il ne sait pas du tout quelle était l'humeur de l'autre homme, de celui qui a hissé le pavillon. Encore bien mieux, cette joie affichée sur les visages est bonne pour tous, et encore mieux, de gens que je ne connais guère, car je ne discute pas alors les signes, je les prends comme ils sont, c'est le mieux. Et il est profondément vrai qu'un signe joyeux dispose à la joie celui qui le lance, d'autant que par l'imitation, ces signes sont renvoyés sans fin. Ne dites point que la joie des enfants est pour les enfants. Même sans réflexion, même sans affection aucune, nous faisons grande attention aux signes des enfants. Chacun ici est nourrice. Chacun commence ici le jeu d'imiter en vue de comprendre par quoi on instruit les enfants. Ce jour de fête vous sera bon, que vous le vouliez ou non. Mais si vous le voulez, si vous retournez de toutes les façons cette grande idée de la politesse, alors la fête sera vraiment faite pour vous. Car, disposant vos pensées selon les signes, vous prendrez quelque forte résolution de ne jamais lancer, le long de ces mois à venir, aucun signe empoisonné, ni aucun présage qui puisse diminuer la joie de quelqu'un. Ainsi d'abord, vous serez fort contre tous ces petits mots qui ne sont rien, et dont la déclamation triste fait pourtant quelque chose. Et par ce bonheur en espoir, vous serez heureux tout de suite. C'est ce que je vous souhaite. 20 décembre 1926.
Fin de Propos sur le bonheur par Alain, Propos 65 à 81.